bonjour. Tania de Montaigne, nous
alors
sommes...
moi, c'est Tania.
Tania.
Ouais, j'aime bien Tanita Tania aussi, mais...
Tania de Montaigne. Sorry.
Non,
on peut revenir sur le nom, parce que vous avez un nom qui est incroyable.
Bah ouais, je suis d'accord, d'autant que je ne l'ai pas choisi, donc je peux m'en vanter.
Il y a une filiation littéraire.
Alors, littéraire, je ne sais, j'aimerais bien. Ça me ferait plaisir si j'arrive à être dans cette mouvance.
Donc, comment s'est fait la genèse du projet? Comment s'est créé comment s'est faite cette histoire, en fait?
Alors, le livre noir, il appartient à une collection qui s'appelle Nos héroïnes, qui est chez Grasset. Et cette collection a pour principe de demander à une autrice de parler d'une autre femme qui a fait l'histoire, mais que l'histoire n'aurait pas retenu pour une raison ou une autre. Après, à chacune de trouver son héroïne. C'est une collection biographique. Hein, donc, la première qui a ouvert la collection, c'est Michel Perrault. Il y a deux contraintes dans le livre, c'est que ça peut pas être une biographie de 500 pages, donc il faut que ce soit ramassé, et il faut que la personne qui écrit le livre soit dans le livre d'une façon ou d'une autre. Donc beaucoup de challenges, et donc déjà il fallait trouver son héroïne, donc là ça se complique, et je me suis souvenue d'avoir lu trois lignes où on disait il y a une adolescente qui aurait pu être Rosa Parks mais qui l'avait pas été parce qu'elle était enceinte de son amant blanc, et elle était décrite comme très délurée, elle buvait, elle fumait, elle jurait, donc j'ai dit waouh, alors jamais entendu parler, je note. Et voilà. Et des années plus tard, on me propose de participer à cette collection. Et donc, je me souviens de ces trois lignes. Et donc, je propose ça en disant... Après, j'en sais rien. Ça se trouve, il n'y a rien. Moi, j'ai noté ça. Donc, voilà. Et c'était génial parce que ça a été ma chance de faire le trajet, de me rendre compte déjà que les trois lignes sont fausses. Ce n'est pas du tout comme ça qu'était Claudette. Elle n'était pas du tout enceinte à ce moment-là. Mais c'était intéressant que ce soit ça qui ait été retenu. Donc, voilà. Tout se redessinait ensuite... à partir de cette découverte, donc c'est génial.
Et comment c'est lié justement à la fois l'écriture et la projection de vous en tant qu'écrivain dans le texte, dans le lien qu'il y a avec l'histoire?
Alors ça, ça a été tout un truc. Déjà, en fait, donc il y a eu tout le moment d'enquête, parce qu'en fait, donc je me suis rendu compte que Claudette Colvin était toujours en vie, donc premier réflexe, tiens, il faut que je lui parle, mais elle ne voulait plus parler. Ensuite, je me suis rendu compte que son avocat de l'époque, Fred Gray, c'était un tout jeune homme, il avait 24 ans, donc toujours en vie. Donc pareil, je le contacte, mais lui non plus, ça n'intéressait pas du tout de parler. Donc là, j'appelle les éditrices, je dis excusez-moi, là, il n'y a que des gens qui ne veulent pas me parler, ça ne paraît pas bien. Et puis elles m'ont dit, mais tu sais, ce n'est pas du tout une collection d'entretien, la nôtre. Donc déjà, si tu racontes là ce que tu as découvert, c'est génial, parce qu'on ne connaît pas cette petite, quoi. Donc là, je suis partie avec un appareil bibliographique. Vraiment costaud, historien du mouvement des droits civiques, historien des femmes dans le mouvement, et de comprendre cette ville aussi, ça c'était vraiment passionnant. Et puis, alors ça c'était la première phase, donc de me rendre compte que Claudette n'était pas du tout enceinte à ce moment-là, mais c'est après, donc de m'interroger aussi pourquoi est-ce qu'on a redessiné l'histoire comme ça. Et puis après, ma place. Le problème c'est qu'en plus, au fur et à mesure que j'enquête, je découvre qu'il y a plein de... parce que Montgomery, c'est pas pour rien que le mouvement part de là. C'est bourré d'associations de femmes qui sont très dynamiques, et c'est elles qui vont lancer le mouvement vraiment. Donc il y a plein de figures géniales. Et donc là, je me dis, moi globalement, je suis quand même la personne la moins intéressante de mon livre, donc faut pas que je prenne de la place. Donc il faut que je trouve comment, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être ce que je peux faire, c'est être guide pour les gens qui vont lire le livre, et de faire en sorte qu'ils comprennent bien à quel point c'est héroïque de faire ce que fait Claudette, alors même que c'est un geste, c'est notre chance, on le comprend pas trop. Et donc souvent les gens disent, pour parler de Rosa Parks par exemple, souvent on dit elle s'est assise chez les Blancs, ou alors on dit elle s'est levée. Mais parce que ça paraît dingue pour n'importe qui n'a pas vécu dans la ségrégation que juste quelqu'un veuille rester assis chez les Noirs. En vrai, c'était ça la demande. Et donc je me suis dit, pour qu'on saisisse ça, il va falloir que moi je fasse le chemin avec le lecteur et que je lui retire des droits au fur et à mesure, pour que le moment où Claudette va entrer en scène dans le livre, il soit vraiment à côté d'elle et pas au-dessus, et que on ait compris ce que c'est, ce que ça représente de juste dire je vais rester assise à ma place.
Et c'est ce que prend en charge toute l'installation,
et voilà, et
de
après,
l'exposition,
voilà.
Qui est assez pertinente et qui laisse en même temps cette espèce de compréhension sensible s'établir. Et donc du coup là, l'histoire américaine, l'histoire des human rights prend un autre relief. Et donc ce que je voulais vous demander, c'était à partir de quel témoignage, sur quelle preuve historique ou récit s'est construite finalement le récit que vous faites, puisque visiblement vous êtes un peu la première à vous intéresser à cette part de l'histoire qui n'a jamais eu sa place véritablement.
Bah, en fait, il y a, bon, déjà toute ma bibliographie, elle est vraiment américaine, parce que c'est vrai qu'en France, là, j'avais pas grand chose. Mais en fait, je suis partie des biographies. Donc, j'ai commencé par l'autobiographie de Rosa Parks pour voir quelle place tenait Claudette Colvin, parce que Claudette Colvin, elle a fait une biographie aussi. Donc, voilà. Mais dans l'autobiographie de Claudette Colvin, Rosa Parks, elle a une importance. Et donc, je voulais déjà savoir. Et évidemment, c'est pas réciproque. Donc chez Rosa Parks, en fait, il y a quelques lignes, mais il y avait d'autres lignes sur d'autres femmes, dont une qui est une de mes grandes passions aussi, qui s'appelle Joan Gibson Robinson, qui est la femme sans qui il n'y a pas de boycott. Et elle aussi a écrit une autobiographie. Dans son autobiographie, Claudette Colvin, elle a vraiment une place. Et surtout, là, je comprends qu'en fait, Claudette Colvin, ce n'est pas du tout une personne délurée. Pas du tout, c'est même strictement l'inverse. Donc, elle décrit complètement autre chose. Et puis, ensuite, à partir de ça, moi, je suis allée voir chez les historiens. Donc, historiens du mouvement des droits civiques, historiens des femmes dans le mouvement. Et là, ça me permettait d'avoir un panorama de la ville, de voir un peu aussi ce qu'il y avait avant Claudette Colvin, quel type d'action, et donc de voir ce qu'elle vient marquer de très nouveau, quoi, c'est-à-dire le fait de plaider non coupable et d'attaquer la ville, et ce que ça engendre, et aussi toutes les réflexions au sein du mouvement. Donc j'ai travaillé aussi avec les archives de Martin Luther King, les archives du président de la NAACP, le mouvement qui va porter le boycott. Donc ça me permettait de voir aussi la place des femmes là-dedans, comment est-ce qu'elles vont être totalement, à partir du moment où Rosa Parks va faire son geste et que le boycott démarre, en fait, les femmes, elles cèdent complètement leur place et c'est les mecs qui prennent la main. Quelqu'un comme Rosa Parks, qui est pourtant extrêmement militante, bah, en fait, elle devient vraiment une figure, mais sa voix... c'est Martin Luther King, la voix de Rosa Parks. Donc ça aussi, c'était intéressant de raconter. Qu'est-ce que c'est une héroïne, en fait? C'est quoi comme...
Oui, absolument.
C'est une femme, bah tiens, il faut que ce soit plutôt une victime. Donc ça me renseignait aussi sur pourquoi il fallait que Claudette, on dise qu'elle est enceinte. Mais de la même façon, on dit que Rosa Parks, en fait, elle fait son geste parce qu'elle sort du boulot, elle a mal aux pieds. Et c'est pour ça qu'elle ne cède pas sa place. Ce qui est intéressant, parce que Rosa Parks, c'est vraiment une militante et c'est vraiment sa tête qui fait qu'elle décide de ne pas se lever. Mais là, d'un coup, c'est son corps. Le récit, c'est que c'est ses pieds, en fait. Donc je me disais, bon, il y a les pieds de Rosa Parks, il y a le ventre de Claudette. C'est ça qui décide qu'elle ne sera pas la figure. Donc il y avait aussi quelque chose d'intéressant à creuser de ce point de vue-là. Comment on fabrique une lutte et quels sont les visages qu'on choisit ou pas. Donc voilà, c'était vraiment de faire tout ce panorama, ça m'intéressait, quoi. Et en décortiquant ça aussi, de montrer que la lutte, ça commence quand on trouve que quelque chose est injuste et que d'autres le sachent ou pas. Et c'est bien ça l'histoire de Claudette, c'est-à-dire on la connaît pas. Après, elle a fait, ses parents lui ont dit tu parleras plus. Elle n'a plus parlé. Elle a fait une vie ailleurs. Personne n'a jamais su ce qu'elle avait fait. Bah, ça, pour moi, c'est très héroïque. Et au final, nous devons beaucoup à tout un tas de gens qui ont mis leur pierre à l'édifice, et juste parce que...
Qu'ont disparu,
mais la justice, en fait, le droit, c'est une matière vivante, et ça n'existe que parce qu'il y a des gens qui la font vivre avec une conviction très forte. Et voilà. Et donc, on leur doit beaucoup, à tous ces gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'était aussi de mettre ça en lumière, parce que je pense que pour réinvestir la lutte, on a tendance à vouloir aller du côté du spectacle, mais moi je crois que la lutte, c'est pas du tout du spectacle, en fait, c'est vraiment du quotidien. Voilà, c'est un truc et on le tient.
Donc on peut dire que cette installation est une installation militante.
Bah, en tout cas, c'est une œuvre d'art, hein, c'est pas un tract. Donc ça, pour moi, c'était important qu'on essaye de trouver artistiquement comment est-ce qu'on pouvait faire sentir. Voilà, c'était ça le sujet. Mais si à la fin on sort avec chargé de, voilà, si on sort augmenté de Claudette, bah alors on a deux fois réussi. Il y a eu de la beauté, il y a eu de, voilà, de cette, voilà, il y a eu un truc qui se produit, donc c'est génial, quoi.
Donc il faut revenir à Éluard, Liberté, j'écris ton nom.
Ouais, je pense que c'est vraiment, et encore plus post-pandémique, parce que comme il y a eu vraiment cette idée que l'autre, c'est potentiellement morbide, bah, du coup, on a oublié qu'il n'y a aucune lutte qui se fabrique si il n'y a pas des gens qui s'agrègent, quoi. Donc, refabriquer du collectif, c'est pour ça que c'était important que cette expérience, elle se fasse à plusieurs et qu'on soit pris ensemble dans une histoire et qu'on la regarde et qu'on se regarde la regarder. Voilà, c'était important aussi que ce soit ça et pas du virtuel où il y a un film et on part et à la fin, on pose son casque et on repart dans sa vie. Là, il y a toujours des allers-retours avec le réel. Et vraiment, réalité augmentée, pour moi, c'est le principe de l'existence, quoi. On est toujours en train de se charger de quelqu'un d'autre, d'un autre regard. Donc voilà, que ça fasse ce trajet-là, ce serait bien.
Oui, parce que c'est, tout d'un coup, c'est une forme d'objectivation. Ces lunettes qu'on porte dans un récit qui est écrit, mis en scène, et importé aussi poétiquement de l'espace et du temps. Donc je trouve que c'est très réussi, moi, dans certaines scènes, et ça laisse effectivement celui qui est le porteur du casque, ça le laisse libre.
Oui, parce que... Mais
donc c'était, on pourrait ramener une figure mythologique.
Oui, parce qu'en fait, dans le livre, par exemple, ça a été aussi mon grand sujet, c'est-à-dire je voulais pas, c'est-à-dire je raconte des choses qui sont extrêmement violentes, et pour moi, c'est contre-productif quand quelqu'un vient me hurler dessus en me disant « t'es horrible », bon, bah ça fait qu'en fait, bon, je m'en fous, enfin, très vite, je mets le truc à distance. Donc, comment faire pour que quelqu'un se fasse porteur d'une histoire supplémentaire, et donc pour moi c'était très important qu'il y ait de l'espace et de la douceur aussi, et que ce truc là on le fasse ensemble, la personne qui lit et moi, on va faire le trajet ensemble et on va essayer d'avancer vers Claudette, voilà, en inventant l'égalité, parce que c'est une invention purement humaine, en fait. Être à égalité, c'est pas du tout ce qui nous a enseigné, ni par le langage, ni par le mode de relation. Donc, c'est à inventer, quoi, l'égalité.
Merci.
C'est moi, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et longue vie à cette exposition qui porte un esprit tout à fait fraternel.
Ouais, exactement. Et puis, on espère qu'elle va pouvoir bouger un peu partout, quoi. Ouais, on va aller à la rencontre de plein de gens, ce serait bien, quoi.
En tout cas, c'est un formidable travail qui a pris, donc, combien d'années ?
Bah, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a créé la pièce en 2019 avec la même équipe, hein, et que là, on s'est lancé, Pierre-Alain nous a lancé là-dedans il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, on a commencé à prendre, à se dire, OK, quel bout de texte on peut prendre, tac, et puis de faire ce pitch. Et puis en fait, ce qui est génial, c'est que se sont agrégés, je sais pas, il y a plus de 10 nationalités, en fait, pour fabriquer ça, quoi. Donc des gens partout dans le monde qui se sont dit, ah ouais, moi j'ai envie de raconter cette histoire. Donc ça, c'est génial aussi.
Absolument. Merci encore.
C'est moi, merci.